Bonjour à tous. Pour la deuxième séance des ateliers de CESPA, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Bataillon, directeur d'études à l'EHSS et membre de CESPA. Au cours des recherches qu'il conduit depuis plusieurs années sur les formes du politique en Amérique latine, M. Bataillon s'intéresse surtout à l'articulation entre le politique et divers aspects qui ont marqué l'Amérique latine au XXe siècle, comme par exemple les processus révolutionnaires, la redémocratisation, l'organisation des forces politiques de gauche ou encore la violence politique. Si ces travaux traitent ces phénomènes d'une perspective surtout sociologique, ils profitent également de l'apport de l'histoire, de l'anthropologie ainsi que de la philosophie politique. Aujourd'hui, M. Bataillon discutera de la préface qu'il a écrite pour l'ouvrage de Moïses Hassan intitulé « La malédiction du Gegense », un ouvrage à la fois de mémorialiste et d'essayiste, où l'auteur porte un regard critique sur le gouvernement des sandinistes et le processus de redémocratisation qui s'en suivit, et comme son prénom, Moïse, curieusement le suggère, s'insurge contre l'idolâtrie mystifiante de cette expérience révolutionnaire. Je passe la parole.
Je voudrais vous expliquer, pas forcément répéter ce qui est dans le texte qui vous a été envoyé, mais vous expliquer pourquoi... Comment j'ai travaillé sur le Nicaragua et pourquoi ce genre de document me semble fondamental. Disons, j'ai au départ une formation d'anthropologue classique où j'ai travaillé sur des choses qu'aujourd'hui je trouve un peu ridicules quand je les vois, qui sont les systèmes de charges dans les communautés des Hautes Terres, Tzotzil et Tzeltal, et les histoires de compétition agonistique dans ces communautés, et à la fois comment c'était le lieu d'un pouvoir magique, de l'acquisition et de la dépense au profit des communautés d'un pouvoir magique, un lieu de compétition entre les hommes et un rite de passage. Bon. Et j'ai cessé, disons, c'est une anthropologie qui existe toujours et qui se porte très bien, il y a des revues où on publie ce genre de travaux, et disons, c'est une anthropologie et une sociologie qui s'intéressent à des objets qui sont très largement réifiés, où on fige des sociétés dans le temps, on les analyse et on essaie de trouver des systèmes de rituels qui sont complètement purs, et qui seraient où il y aurait un espèce de, disons, il y aurait un archétype, ou même si on tient compte des syncrétismes entre le catholicisme et des religions dites autochtones, on fige quelque chose comme à distance de la société métisse englobante. Bon. Et ce que j'ai découvert en travaillant comme un espèce de militant politique des droits de l'homme au départ sur le Nicaragua, et où j'ai commencé à travailler là-dessus, parce que comme tout bon anthropologue, je faisais partie d'une ONG qui défendait les droits de l'homme, et est arrivée l'affaire des Miskitos au Nicaragua, où il y a eu une rébellion indienne contre un gouvernement qui se disait d'inspiration socialiste et d'un socialisme démocratique et faisant place à l'économie mixte, au pluralisme et au non-alignement. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de comprendre ce qui se passait, et que j'ai lâché une ethnologie classique que je faisais sous la direction d'un monsieur qui était enseignant ici, qui s'appelait Soustelle, avec lequel je me suis fâché, à propos des histoires du Nicaragua, et où j'ai beaucoup plus...
Jacques Soustelle.
Et où j'ai très vite été... J'ai compris que je trouvais beaucoup plus intéressant de travailler sur des régimes politiques contemporains en Amérique latine, et de faire le lien, et en disant, on peut en avoir des observations ethnographique, et d'une certaine façon, cette réflexion, elle n'est jamais déliée d'une réflexion sur la politique dans laquelle on vit et sur l'idée de qu'est-ce qui est un bon régime. Et disons, si les événements politiques latino-américains passionnent tant les gens beaucoup plus en France que ce qui peut se passer au Pakistan, c'est qu'il y a une identification aux pays latino-américains qui sont comme quelque chose qui ressemble beaucoup à l'Occident ou aux pays centraux, et qu'il y a toute une histoire commune entre les choses qui dépendaient autrefois des monarchies ibériques, qu'il s'agisse de la monarchie espagnole ou de la monarchie portugaise. Et d'une certaine façon, ce qui aujourd'hui agite les nations politiques quand on parle des néopopulismes, c'est bien l'idée, est-ce qu'il y a ou pas une réinvention de la gauche, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ou pas. Et de la même façon, quand il y a des débats et une couverture qui est accordée à ce qui se passe au Brésil, c'est bien parce que quelque chose comme le Parti des travailleurs interpelle, mobilise l'attention des gens, escaparer ou pas une forme de parti de gauche nouveau, quelle est cette articulation. Donc c'est la même chose qui m'a intéressé sur, disons, la révolution sandiniste. Et ce qui m'a aussi intéressé, disons, j'ai été formé à la pensée politique dans le sillage de Claude Lefort, pas simplement parce que j'avais des relations de parenté avec lui, parce que c'est un monsieur que j'ai découvert adulte, enfant c'est un monsieur qui ne s'intéressait pas à sa famille et le fait qu'il soit mon oncle, tout le monde s'en fichait, mais c'est quelqu'un dont je suis venu suivre les cours ici après avoir lu les choses qu'il avait écrites dans Socialisme ou Barbarie par le truchement d'un troisième monsieur qui faisait une revue qui s'appelait Autogestion et Socialisme. Donc, et qu'est-ce qui m'avait intéressé dans la pensée de Lefort ? C'était une capacité à articuler ce qu'il appelle les questions de la philosophie politique. Qu'est-ce qu'un régime politique ? Comme diraient les philosophes classiques, et disons, quelqu'un comme Pierre Manant a pu poursuivre ce genre d'interrogation ici, mais l'intéresser aussi la politique, c'est-à-dire comment se fait la politique au jour le jour. Et, disons, toute son œuvre montre qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Et je dirais, il y a quelqu'un qui est une figure un petit peu comme Lefort, sauf que lui a un ancrage, disons, plus à droite, alors que l'autre s'ancre incontestablement dans un milieu de gauche, c'est Aron. Il y a un certain nombre de commentateurs de Aron qui disent s'il a été journaliste, c'est parce qu'il avait une espèce de capacité de travail incroyable, qu'il a voulu se retirer de l'université et gagner sa vie comme journaliste, et qu'ensuite il a pu continuer à être journaliste et que ça l'intéressait. Non, si vous regardez précisément l'œuvre de Aron, et que, alors, il y a ces deux thèses d'une histoire de réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'histoire et qu'est-ce que c'est que la sociologie, qu'est-ce que sont ce qu'on n'appelle pas encore les sciences sociales, comment se construit une pensée du social, et il analyse Weber, Troeltsch et tous les grands penseurs allemands de la charnière du 19e et du 20e, et en même temps, quand il est à Londres, il est un chroniqueur de la France libre et il réfléchit en faisant des petits essais sur l'évolution de la situation politique, et il peut parler aussi bien des écrivains collaborationnistes, du rationnement en France, du gouvernement de Vichy, des lois anti-juives, que de l'avancée du front de guerre, du New Deal. Si vous reprenez les textes de la France libre, c'est vraiment ça. Et disons, c'est aussi ça qui va nourrir des textes et une réflexion plus systématique sur la guerre, qui va se développer, bien sûr, dans une analyse au jour le jour de la guerre froide, et dans ces deux grands livres sur le sujet qui sont Paix et guerre entre les nations et ensuite Pensée Clausewitz. Donc, et il est, comme Lefort, très attentif aux témoignages, à ce qu'on peut voir en voyageant. Par exemple, j'avais regardé dans ces articles du Figaro, il y a des chroniques d'un voyage qu'il fait à Cuba au moment de la Révolution, qui est quelque chose d'extrêmement intelligent. Il n'est pas un spécialiste de Cuba, mais il comprend très bien comment la Révolution a suscité l'enthousiasme et comment, en même temps, elle est en train de se caporaliser. Bon. Lefort résonne dans les mêmes termes, sauf que si, disons, Lefort a écrit un article où il théorise ça, qui s'appelle « L'expérience prolétarienne », où il réfléchit sur ce que c'est que l'histoire et la sociologie du mouvement ouvrier et du monde ouvrier. Et il explique que, pour accéder à ça, on croise une histoire statistique sociale classique. Il cite le livre d'Édouard Orléans sur la classe ouvrière française au 19e. Il dit on regarde les textes des mémorialistes de l'époque. Et puis il dit il y a un genre nouveau qui apparaît qui sont les mémoires des prolétaires. D'une certaine façon, quand Rosan Vallon lance le Parlement des Invisibles et demande à des gens d'écrire pour témoigner, qui fait son petit livre dessus, il oublie dans ses dettes intellectuelles Lefort. et cet article fondamental qui s'appelle l'expérience prolétarienne, qu'il a bien évidemment lu. Et le Fort va être toute sa vie très attentif aux témoignages pour penser la question de la révolution russe. Si vous prenez ses premiers textes, un des premiers, c'est une critique de la révolution trahie de Trotsky, où il montre qu'il y a une contradiction entre Trotsky, qui d'un côté vante le rôle organisateur du parti bolchevique, et d'un autre est très attentif à la capacité et la spontanéité des masses et à leur capacité à l'auto-organisation. C'est les termes de Trotsky dans la traduction française. Je ne lis pas le russe et je ne peux que m'appuyer sur les traductions françaises. De la même façon, il va ensuite s'appuyer sur le témoignage d'Anton Seliga au pays du mensonge déconcertant pour penser ce que c'est que cette expérience totalitaire in statu nascendi, puisque Seliga décrit la Russie des années 20 et qu'il est libéré dans les années 30. Et il va ensuite porter une attention particulière au témoignage de Kravchenko au lendemain de la guerre. Kravchenko, vous le savez, c'est un haut bureaucrate soviétique qui quitte l'URSS en étant représentant de l'URSS à New York, à l'ONU. Et il va de la même façon ensuite être très attentif au témoignage de Solzhenitsyn. Qu'est-ce qu'il explique et qu'est-ce qui est important dans ces témoignages ? C'est des acteurs qui ont été partie prenante d'une expérience révolutionnaire et qui essaient de la penser. Et pour employer un langage qui n'est pas le mien, pour reprendre le langage de la sociologie structuraliste de Bourdieu, qui construisent une distance avec leur objet. Bourdieu parlerait d'auto-réflexivité. Disons, tout le travail de mémorialiste, ça peut aussi être celui-là. Il y a la fameuse phrase de Arendt disant que les mémoires des hommes politiques sont le genre le plus mensonger qui soit. C'est à la fois vrai et d'une immense stupidité. Vous avez des mémoires géographiques qui n'ont aucun intérêt, et vous avez aussi des hommes politiques qui essaient sérieusement de faire le point sur une expérience politique. Et de la même façon, vous avez des récits de prolétaires, de gens du peuple ou de gens des minorités dites ethniques qui font un récit de chromo de l'histoire de leur tribu, l'histoire de leur ferme, l'histoire de leur atelier ou l'histoire de leurs conditions prolétariennes. Et disons, un des exemples les plus célèbres dans l'anthropologie latino-américaine de faux merveilleusement construits, c'est celui de Rigoberta Menchú. Là, ce qui m'intéressait dans le témoignage de Moïse et Sassar, c'est qu'il permettait de comprendre de l'intérieur la révolution sandiniste avec quelqu'un qui avait été à la fois au départ un militant de base, un combattant puisqu'il est responsable de l'insurrection en Managua et qu'il organise une opération qui n'est pas une petite opération militaire, qui est le retrait, le repli des troupes sandinistes qui sont épuisées par plusieurs jours de combat à Managua et qui se replient sur une petite ville à côté qui s'appelle Masaya, d'où ils repartent à l'attaque de Managua en ayant fait jonction avec des groupes qui viennent du Costa Rica et qui ont reçu un armement qui a été acheminé au Costa Rica par les Cubains, les Vénézuéliens et les Panaméens. Et il y a aussi des armes qui ont été achetées aux États-Unis et transportées par l'avion présidentiel mexicain. Donc il est à la tête de cette opération, ce qui n'est pas une petite opération. Il est aussi un des militants de la vieille tendance du front, guerre populaire prolongée, qui est une tendance qui dit les Foucault à la Guevara, ça a fait long feu, il faut s'installer dans une guerre paysanne de longue haleine dans les campagnes. Lui, en fait, est en ville et il va être, à partir du moment où se dessine un consensus nouant et liant différents groupes d'opposants contre Somoza, à partir du début 78, il va être lié à un mouvement urbain très important qui s'appelle le mouvement Peuple Uni. Ensuite, il est membre du premier gouvernement provisoire, du deuxième gouvernement provisoire, puis il est ministre dans deux endroits importants, les travaux publics, le ministère de l'Intérieur, et enfin, il rompt avec le front au lendemain des élections de 84, et il accepte le poste de maire de Managua, et il est ensuite candidat indépendant contre le Front sandiniste aux élections de 90 que perdra le Front sandiniste, mais aussi contre la coalition d'opposants qui va du Parti communiste jusqu'aux gens conservateurs et qui est emmenée par une femme qui va être présidente du Nicaragua et qui a été d'ailleurs aussi membre du premier gouvernement révolutionnaire, Doña Violeta Chamorro de Barrios, Barrios de Chamorro plus exactement. Donc il a un point de vue Et ensuite, il va être député durant la première législature des temps démocratiques du Nicaragua qui commence en 90. Et il est aujourd'hui à la tête du Parti d'Action Civique ou Citoyenne, et il est candidat à la primaire qui va être organisée en mai prochain pour essayer de désigner un seul candidat de l'opposition contre Daniel Ortega qui est revenu au pouvoir. Donc, ce qui m'intéresse dans son témoignage, c'est que à la fois il y a des espèces d'anecdotes qui en disent beaucoup plus long qu'une grande enquête sociologique. Il décrit des situations de prise de décision de moments capitaux dans la révolution. Il décrit aussi le train-train bureaucratique et la corruption qui s'installe tout de suite et très vite dans les ministères. Et il décrit les mêmes tours de passe-passe politique à l'Assemblée quand le Nicaragua est devenu un régime dit démocratique. Donc il y a un témoignage et une réflexion sur ce témoignage qui est particulièrement intéressante. Alors, tout chez Moïsès n'est pas à prendre pour argent comptant. Et il est évident que l'on peut et l'on doit recouper son témoignage. Et disons, son témoignage, il y a une note en bas de page où je vous renvoie à un certain nombre de livres qui ont été publiés par d'autres gens qui ont participé à la révolution à des rangs plus ou moins hauts et qui ont fait rupture ensuite. Et disons, tout ce qu'il dit est confirmé par une chose que j'ai faite avec une étudiante qui va s'inscrire en thèse avec moi, c'est j'ai dépouillé le grand journal d'opposition à Somoza, puis au sandiniste, qui est la Prensa, sur les deux premières années du régime révolutionnaire. Et l'idée, c'est de lire ça au regard du quotidien officiel du Front, et on découvre à l'œuvre les mêmes, disons, bureaucratie, tous les phénomènes que décrit Moïse et Sassan. Mais disons, pour le journal, les journaux au Nicaragua, ils paraissent tous les jours. Donc, sur 2 ans, j'ai 700 journaux, et dans les journaux, j'ai fait des PDF de 1, 2, 3, 4, 5 articles par jour. Donc, et Barricada, je prends en vrac, je les fais acheter en microfilm par la BDIC, parce que je n'arrivais pas à acheter une collection au Nicaragua, c'était trop volumineux. C'est un journal comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est, disons, cette source tout à fait extraordinaire où il y a quelqu'un qui prend la parole avec ce style qui est inauguré par Michel de Montaigne, c'est moi, Moïse et Sassan, je porte témoignage d'eux, et non seulement je dis j'y étais, j'ai vu, j'ai entendu, mais je réfléchis à ça et j'essaie d'en tirer des leçons politiques. Et donc, il va organiser sa réflexion en, disons, 4 temps. Il y a une première grande réflexion sur ce que j'appellerais la culture politique nicaraguayenne. Il y a une deuxième chose sur la fin de la dictature et la montée en force du FLN. Et une troisième partie qui serait une espèce d'anatomie de la révolution. La chose qui me paraît très importante sur la culture politique nicaraguayenne, c'est qu'il explique, contrairement à ce qu'on a expliqué, c'est comment, si le régime de Somoza a été bien évidemment une dictature, et une dictature qui s'est prolongée sur 40 ans, avec 3 présidents issus de la même famille, avec au milieu un homme lige placé entre 2 présidents. Bon. C'est comment ce régime dictatorial est absolument pas un régime autoritaire monolithique, mais comment c'est un régime qui fait place à un jeu de conciliation des intérêts et où on corrompt tout autant ou plus encore qu'on terrorise. C'est-à-dire que vous avez un parti lié à la famille de Somoza, le Parti libéral nationaliste, et qui est lié à une ville qui est une des 2 grandes villes historiques du Nicaragua, León, et un deuxième parti, le Parti conservateur, qui est lié à Granada, qui est, les Granadins sont conservateurs, c'est-à-dire des gens qui sont non seulement catholiques, tout le monde est catholique, mais qui affirment que l'ordre du monde doit être régi en fonction du syllabus, grosso modo. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont des catholiques parce que livré à lui-même, l'homme est un pécheur et qu'il faut donc être catholique, mais il faut travailler à ce que les vérités énoncées par les libéraux à partir du XIXe siècle peu à peu s'implantent au Nicaragua et qu'on aille vers une modernité qui permettra à terme un régime démocratique. Donc si vous voulez, pendant les 40 ans du somosisme, il y a des négociations, c'est-à-dire les élections sont là pour ratifier un accord au sommet et on dit aux conservateurs, vous êtes des gens sérieux, vous êtes des gens distingués, donc le ministère des Affaires étrangères, c'est pour vous, sauf l'ambassade du Nicaragua aux États-Unis, parce que là, c'est le poste le plus important, il faut que ça soit un homme de chez nous auquel on ait confiance. Les finances, vous avez le sens des équilibres budgétaires, vous êtes des financiers sérieux, c'est aussi pour vous, mais toute une série d'autres ministères, c'est pas pour vous. Bien sûr, Granada, qui est votre fief, les Chontal et ces deux régions à côté, vous aurez des députés conservateurs, mais pour toutes les autres grandes villes, c'est nos gens qui seront nommés. Et d'une certaine façon, il y a même des moments où on divise les fiefs où vont se présenter des libéraux, ceux où vont se présenter des conservateurs. Et il y a l'idée, c'est ce qu'un politiste américain qui s'appelle Charles Anderson a très bien montré dans les années 60, qu'il y a un jeu des concurrents pour le pouvoir avec un homme dominant, mais qu'on s'arrange et qu'on fait des démonstrations de force. Et ce qu'explique Anderson, et que reprend sans jamais le citer Moïse et Hassan, non pas qu'il ne l'ait pas lu, mais parce que, disons, Anderson, qui a travaillé avant tout sur les pays centra-américains, décrit vraiment les règles du jeu implicite, du jeu politique, exactement comme, si vous voulez, si vous prenez l'article classique de Clifford Geertz sur le combat de coq balinais, Geertz, il décrit un jeu avec des règles, il n'y a jamais un code des règles du jeu de coq et des enjeux sociaux autour. Bon, Anderson, il fait la même chose avec la politique. Et donc, Moïse et Hassan retrouvent des idées, enfin, retrouvent le même point de vue. Et ce qu'il montre, c'est que ce système des concurrents pour le pouvoir, il est considéré comme quelque chose qui a une vocation à agglomérer des acteurs nouveaux pourvu que ceux-ci modèrent leurs prétentions politiques. Et donc, le dernier des Somoza, au lieu d'ouvrir ce qu'avait fait son père, des très bons historiens américains et un monsieur qu'on ne peut pas soupçonner d'être un crypto-néoréac, Jeffrey Gould, qui est l'auteur du meilleur livre sur l'histoire agraire du Nicaragua, fait un parallèle, à mon avis, tout à fait fondé entre le gouvernement de Perón en Argentine et celui de Somoza avant, ou celui de Vargas au Brésil, ou celui de Cárdenas au Mexique. C'est-à-dire, la grande force de Somoza et sa façon de s'imposer, c'est qu'il va intégrer les classes populaires au Parti libéral, il va donner des droits aux femmes. Les premiers mouvements de suffragettes au Nicaragua sont appuyés par Somoza, et il va mobiliser une plèbe urbaine naissante contre les caciques conservateurs qui sont des propriétaires fonciers assez traditionnels. Son fils va continuer à ouvrir le système. Il va même donner une vitrine légale au Front Sandiniste. Et Somoza père fera venir le grand syndicaliste communiste mexicain pour rédiger un code du travail. Pour vous compliquer un peu le jeu, le code du travail mexicain, il a été rédigé par un fasciste italien. Et si vous voulez, il y a une idée corporatiste. Bon. Et on rigole en disant il y a une statue de Somoza à cheval qui est, on a racheté une statue de Mussolini à cheval et on a changé la tête. Il y a bien la même idée corporatiste, sauf qu'il n'y aura jamais chez Somoza une construction totalitaire, ni même une velléité de ça. Donc, ce qui se passe avec le dernier des Somoza, c'est qu'au lieu d'agglomérer des gens autour de lui et de partager les prébendes, à partir du lendemain du tremblement de terre de 1974, il bloque tout et il organise la reconstruction pour lui et ses partisans. Donc, il va s'aliéner d'abord l'Église, et parallèlement les clans conservateurs. Et vous allez avoir une opposition qui va se mettre en place, et à l'époque les sandinistes sont un groupuscule, et comme me racontait l'un d'entre eux, quand on faisait un transport d'armes dans Managua et qu'il y avait une grenade qui tombait d'une sacoche de moto et qu'elle explosait, c'était un événement parce qu'on n'était plus capable de faire quoi que ce soit. On avait une colonne qui survivait dans les montagnes du centre du pays, et ils étaient occupés à survivre, mais qu'ils aient une initiative stratégique pour organiser un quelconque coup de main, c'était tout simplement pas pensable. C'était ne pas crever de faim, ne pas se faire attraper par la garde nationale. Donc, il y a une coalition de forces qui s'unit pour renverser Somoza, et on est dans cette logique des concurrents pour le pouvoir. C'est-à-dire, il y a un tyran qui empêche les braves gens et les élites locales de faire de la politique, alors on se soude tous pour le renverser. Et on reprend des façons de faire de la politique qui sont celles qui ont cours au Nicaragua depuis le début de l'indépendance. Depuis 1810, conservateurs et libéraux s'affrontent les armes à la main, pactisent, dépouillent les vaincus d'une partie de leurs biens et refont une formule politique. Et disons, c'est ce qui se passe là, et c'est comme ça que se coalisent tous les gens autour des sandinistes. Et les sandinistes vont apparaître comme la force qui va intégrer, comme Somoza autrefois, une plèbe urbaine nouvelle du fait de l'énorme développement de Managua, de l'apparition d'une jeunesse scolarisée qui a combattu sous les couleurs du front. Et au début, il y a l'idée que le front organise une nouvelle répartition du pouvoir et qu'il est autour de ça. Ce que je veux vous expliquer, c'est que quand le front arrive au pouvoir, personne ne parle du délai dans lequel on organisera les élections générales, ni les partis d'une opposition qu'on disait à l'époque bourgeoise à Somoza, pas plus les sandistes. Les seuls qui insistent là-dessus, c'est les démocrates chrétiens qui sont organisés dans un petit parti qui s'appelle le Parti social chrétien et qui a créé la seule organisation des droits de l'homme sérieuse dans ce pays à partir de 1976. Et il y a l'idée, de la même façon, que il n'y a aucune discussion sérieuse sur quel va être le nouveau registre de la loi ou pas au Nicaragua. Tout ça est dans un flou artistique. Pourquoi ? Parce que les gens sont absolument d'accord avec ce que Moïse Sassan appelle la cultura del huehuense, c'est-à-dire des négociations où la force a une première place et où la loi n'existe. L'idée d'un pôle du pouvoir séparé, que ce soit un pouvoir, disons, auquel on accède au travers d'élections, ou un pouvoir de fait, celui des grands entrepreneurs, des syndicalistes, des propriétaires fonciers, que ces gens-là n'incarnent pas la loi et qu'on puisse leur opposer un code du droit du travail, un code de la propriété foncière, un règlement des institutions ne fait pas sens. Et il y a l'idée aussi pour tout le monde que l'accès au pouvoir est aussi l'accès à l'argent et aux biens terrestres de ce monde. Et il y a l'idée aussi partagée par tout le monde que la richesse, elle est moins le fruit du travail que de biens qu'on fait exploiter par d'autres. En clair, ce qu'on prive, l'image de la richesse, c'est une mine, c'est une propriété foncière, mais c'est pas quelqu'un qui a du génie industriel et qui crée Apple. Ça n'a pas de sens. On est quelqu'un qui a très bien systématisé ça, c'est Danilo Martuccelli dans un livre qui s'appelle Existe un individu sans elle. Donc, ce que veut montrer Moïse Sassan, c'est que cette culture de la piñata et du huehuense, elle va traverser toute l'expérience historique des années 70 jusqu'aux années actuelles. Ça veut dire qu'il y a un fond de pratique politique. On peut, pour parler comme Cochin, qui s'appuyait sur Durkheim pour faire ce terme, une culture politique, c'est-à-dire, et Cochin, quand il définissait une culture politique, il disait, c'est ce que les anthropologues appellent un folklore ou des habitudes partagées, pour reprendre le terme de Durkheim. Et disons, on serait dans ce que la sociologie d'inspiration bourdivine nomme des habitus. Et c'est sur ce fond que va exister la tentative de créer un État totalitaire du front sandiniste. C'est sur cette toile de fond qu'il va y avoir une tentative d'instituer un régime réellement démocratique les premières années du gouvernement de Violeta Chamorro. Et c'est sur cette toile de fond que vont remonter en force, à partir du gouvernement d'Arnoldo Alemán au début des années 2000, en 96, puis jusqu'en 2002, des pratiques clientélaires qui vont permettre la réélection frauduleuse la deuxième fois de Daniel Ortega il y a quelques années. Bon, et si vous voulez, réélection qui s'est faite au mépris de toutes les lois. C'est-à-dire il y a une loi nicaraguayenne qui interdit à un président de se présenter au terme de son mandat. Ortega a violé cette loi en se représentant en 2011. Et la loi interdit à tout président de faire plus de 2 mandats dans sa vie. Or, Ortega en est à son 3e mandat. Donc, voilà 2 bonnes raisons de... Et il y a une cour constitutionnelle qui a dit « Si on applique la loi, on viole l'égalité des citoyens devant la loi parce que tout le monde a le droit de se présenter et on transforme Ortega du fait qu'il a été président en un citoyen qui n'aurait plus de droit. » Ce qui est un tour de passe-passe juridique extraordinaire, mais si vous voulez, c'est comme ça que ça se fait. Donc, ce qui me paraît très important, c'est cette idée de ce trend d'habitude qui perdure. Et il me semble que si on regarde ces choses-là, on comprend beaucoup mieux ce qu'on appelle aujourd'hui les phénomènes néo-populistes en Amérique latine, c'est-à-dire ils freinent des avancées démocratiques qui ont eu lieu à partir des années 80, en pratiquant un travail de réincorporation du pôle du pouvoir et de celui de la loi, et ils n'inventent rien. Ils reviennent à des habitudes anciennes qu'ils modernisent. Et il y a une incapacité à créer du neuf. Je veux dire, il y a des historiens qu'on ne lit plus qui ont très bien réfléchi là-dessus. Je pense à ce que Quinet raconte sur la terreur dans la Révolution française. Quinet dit, dans la terreur, il y a quelque chose d'extrêmement nouveau, et il y a en même temps quelque chose d'extrêmement nouveau qui se construit sur une résurgence de pratiques de l'Ancien Régime. Bon. Là, on est dans quelque chose du même ordre. Et je pense que si on voulait comprendre ce qui se passe dans la Russie de Poutine ou dans les pays satellites, on est dans des phénomènes du même genre. Et on pourrait raisonner de la même façon sur un certain nombre de pays du Moyen et du Proche-Orient. Je voudrais en venir à deux choses, à deux avancées dans le récit que fait Moïse Hassan de la montée en force du Front sandiniste, de sa capacité à imposer la dictature d'un parti qui a une vocation totalitaire, et au sein de ça, la montée en force de quelqu'un comme Daniel Ortega. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il fait un récit qui est confirmé par tous les autres acteurs. Il y en a une explication limpide dans le film que j'ai fait avec Clara Haute, Nicaragua, une révolution confisquée, dans la bouche de Sergio Ramírez. Et Sergio Ramírez raconte la même chose dans ses mémoires. Et il le raconte aussi dans un grand livre, Entretien avec Silvia Scheren, une journaliste mexicaine, dans un livre qui est publié au Fondo de Cultura à Mexico. C'est comment... Disons, ce qui va permettre la montée en force du front, c'est 2 choses. C'est 1, la fin du veto de Carter sur le renversement des régimes dictatoriaux qui règnent en Amérique latine depuis le milieu des années 60, en arrivant plus ou moins tard au pouvoir, le premier étant le régime militaire brésilien qui a été probablement un des moins féroces. Même pas probablement, assurément, un des moins féroces. C'est le fait que Carter conditionne son aide économique et militaire, ouvre un boulevard à l'opposition. Et là, il y a un homme qui commence à monter en force, qui est Pedro Joaquín Chamorro, qui est l'opposant de toujours au Somoza, qui a pris les armes contre eux dans sa jeunesse, et qui, à partir des années 70, est devenu la tête de file du grand journal La Prensa, et qui est un éditorialiste qui cogne tous les jours sur la dictature, et dont les journalistes dénoncent les méfaits de la dictature. Et lui fédère une opposition autour de lui dans le genre concurrent pour le pouvoir. C'est-à-dire, il est la tête de file des nouveaux conservateurs, New Look, exactement comme il y a eu un renouveau du radicalisme autour de Mendès France, lui incarne un renouveau du conservatisme autour de sa personne. Bon. Et il est en plus un homme qui a une vie chrétienne exemplaire, et donc il a l'appui de l'Église. Et il vient des grandes familles qui ont gouverné le Nicaragua. Donc il y a une agglomération de forces qui se fait autour de lui, et son assassinat début 78 va avoir 2 effets. 1, il n'y a personne qui ait la stature pour le remplacer. 2, les gens dans les secteurs de la bourgeoisie qui pensaient qu'on pouvait encore négocier avec Somoza se disent non, si on a assassiné quelqu'un comme Pedro Joaquín, alors tout peut arriver dans ce pays. Donc il faut absolument sortir ce tyran, et on peut s'allier avec n'importe qui contre ce tyran. Et dans le même moment, les sandinistes commencent à recevoir, une des fractions des sandinistes modère son discours. L'un d'entre eux affiche des options social-démocrates, Eden Pastora, qui est le grand leader militaire d'un groupe de sandinistes qui est au sud. Et ils vont obtenir que le Costa Rica leur serve de sanctuaire, que le Panama leur donne des armes et des hommes, que le Venezuela leur donne 100 000 dollars par mois, que les Mexicains les appuient dans les arènes internationales. Ils vont recevoir de l'argent de la Syrie, de la Libye, et vous allez avoir des choses tout à fait extraordinaires, comme López Portillo, le président mexicain de l'époque, qui dit voilà, Azteca Uno, l'avion présidentiel, il va dans un aéroport en Californie, il y a un monsieur qui s'appelle Gutiérrez, qui est un des représentants du front, qui est le dentiste de López Portillo à Mexico, qui a acheté des armes aux États-Unis sur le marché libre, et qui dit voilà, j'importe 250 Galils, et c'est l'avion présidentiel mexicain qui les embarque de la Californie américaine et qui les dépose à l'aéroport du Costa Rica, de San José, Costa Rica, et c'est transporté ensuite. Donc vous avez toute une série de gens qui prêtent la main aux sandinistes, et pour des raisons parfois de rivalité politique locale. Il y a une vieille rivalité entre le Costa Rica et le Nicaragua, et les sociaux-démocrates costariciens ont toujours soutenu les conservateurs dans leur fait d'armes contre Somoza, même le premier des Somoza. Ils ont frété un avion pour organiser une opération militaire en 58 qui s'appelle Ollamay Mogollones, à laquelle a participé Pedro Joaquín Chamorro. Et ça, c'est un sport qui est considéré comme normal. Il n'y a pas l'idée que les frontières nationales arrêtent, non. Les vaillants doivent prendre les armes pour défendre la liberté. Et tout ça, c'est absolument normal. De la même façon qu'il est normal que des gens aillent taper à la porte de Castro pour obtenir des armes. Bon. Et donc, vous avez une montée en force du front qui va pouvoir armer les jeunes qui se révoltent dans les villes et qui va être à la tête de là du premier groupe armé. Et ce groupe armé est contrôlé par les tercianistes. Deuxième chose accidentelle qui est capitale pour comprendre les choses. Il y a des bagarres féroces au sein du Front sandiniste réunifié qui a été en bagarre très longtemps et qui, début 79, se réunifie. Et là, dans la formule du gouvernement provisoire qu'on met en place, il est entendu qu'aucun membre de la direction nationale du Front n'en fera partie. Et là, Humberto Ortega, qui est l'homme qui règne sur les tercieristes au Costa Rica, sur l'argent qui vient du Venezuela, du Panama, les liens avec les Mexicains, l'argent de la Syrie, l'argent de Kadhafi, dit on ne peut pas avoir un gouvernement où on n'est personne, donc on va mettre dans la junte, on va l'imposer, Daniel Ortega, mon petit frère. Alors Daniel Ortega, on l'appelle à l'époque El Bachi, le bachelier. Il apparaît comme le plus sinistre, le plus nul et le moins charismatique des neuf de la direction nationale. Donc tous les autres, qui sont les hommes forts de la direction nationale, je pense à Henry Ruiz, je pense bien évidemment à Thomas Borges, disent « pas de danger avec un type pareil, aucun problème ». Et donc, deuxième chose qu'il va faire, donc première position de force dans la junte, et Ortega est nommé secrétaire de la junte. Alors au début, on pense qu'il va être le plus mitif. Pas du tout, il va devenir le président de la junte, dans les faits. Deuxième chose qui va faire basculer le rapport de force en faveur des sandinistes, c'est qu'il y a un accord qui prévoit que, devant l'avancée des sandinistes, Somoza démissionne, transmet le pouvoir à son vice-président, qui rendra le pouvoir à la junte, qu'on sanctuarise les zones où est la garde nationale, et qu'on constituera une nouvelle armée et une nouvelle police sur une base mixte. Moitié gardes nationaux qui ne sont pas compromis avec le régime de Somoza, qui n'appartiennent pas au corps chargé de la répression, moitié guérilleros qui seront intégrés dans la nouvelle armée et la nouvelle police. Et là, Urcuyo, poussé par Somoza ou pas, décide que non. Il est à mi-chemin de son mandat de vice-président, et il assume la vice-présidence jusqu'à la fin. Et il dit aux troupes, vous continuez à combattre, vous ne vous rendez pas. Gigantesque chaos, parce que les sandinistes l'emportent sur toutes les positions, et la garde se volatilise. Donc, quand les sandinistes entrent à Managua, il n'y a pas une force armée, il y a de multiples forces armées aux mains de différents chefs de guerre sandinistes, dont certains ne reconnaissent pas forcément l'autorité des autres membres de la direction nationale. Et donc, tout le monde dans les partis bourgeois est d'accord pour que les sandinistes reprennent en main ces gens. Donc vous avez, si vous voulez, du fait des événements, un basculement qui s'opère en faveur des sandinistes. Et le basculement va être d'autant plus durable que Carter veut absolument que l'expérience de pluralisme, de non-alignement et d'économie mixte qui est annoncée par le gouvernement révolutionnaire réussisse pour montrer que les transitions qu'il veut dans l'Amérique latine et en Amérique centrale, qui est traditionnellement la chasse-gardée des États-Unis, ne conduisent pas forcément à l'apparition de régimes comme celui qui existe à Cuba. Donc, très longtemps, il va tout faire pour que les choses ne pas ouvrir les hostilités contre les sandinistes. Et très vite, les sandinistes, ce que raconte fort bien Moïse Hassan, vont monter en force et prendre tous les pouvoirs. Alors, il décrit très bien cette volonté du front de contrôler tout. Ce qu'il décrit aussi très bien et qu'on a tendance à oublier dans une analyse à la Martin Malia ou à la François Furet, c'est qu'il n'y a pas simplement une bureaucratisation par en haut de la révolution, mais il y a une bureaucratisation par en bas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'étaient rien et qui deviennent tout. Ils ont été tout dans les comités de défense contre et les comités locaux dans la guerre contre Somoza, et ils sont à la tête des nouveaux organismes qui doublent l'appareil d'État, les comités de défense sandinistes, et qui sont coiffés à un échelon intermédiaire par des comités départementaux ou municipaux dans les grandes villes, et où là, c'est plus des gens de la base qui se fédèrent pour nommer un responsable local, mais c'est les gens de la direction nationale qui nomment des gens pour encadrer ça. Vous avez la même chose avec les coopératives agricoles. Somoza est une des plus grandes fortunes du pays. Et il a une fortune en terre qui est considérable. De la même façon, vous avez certains de ces officiers qui ont des fortunes en terre considérables. Tous ces gens-là partent. Leurs biens sont confisqués. Et ces biens, contrairement à ce qu'espérait toute une partie de la paysannerie qui a rejoint la Révolution, qui a constitué des mouvements armés pour l'appuyer, en particulier un truc qui s'appelle MILPAS, milice antisomosiste, populaire antisomosiste, ils sont extrêmement déçus par le fait qu'on ne partage pas les terres qu'on avait promis qu'on partagerait, et au contraire, on fait des fermes d'État, et on les pousse à abandonner leurs parcelles ou à accepter que leurs parcelles soient intégrées à ces nouveaux grands organismes. Alors, si vous voulez, mais vous avez aussi des organisations de jeunesse qui se mettent en place, vous avez aussi des organisations de femmes. Donc vous avez un double mouvement de bureaucratisation par en haut et de bureaucratisation par en bas qui s'opère. Et ce qui est tout à fait intéressant, et ce que montre très bien Moïse Hassan, c'est comment, face à ça, personne ne dit « Attention, il convient de convoquer au plus vite une assemblée constituante et d'élire au plus vite un président de la République au suffrage universel. » C'est coup de force contre coup de force. Et donc, de toute façon, si vous n'avez à part, je dirais, une cinquantaine de gens du Parti social chrétien, personne n'est dans des représentations démocratico-libérales ou socialistes autogestionnaires à l'époque au Nicaragua. On est dans une, disons, quelque chose qui, ces pratiques d'anciens régimes avec lesquels personne ne veut rompre, et les sandinistes qui construisent un populisme radicalisé qui a tous les traits d'un parti État totalitaire. Et ce qui est très intéressant dans le témoignage de Moïse, c'est qu'il montre comment se construit cette bureaucratie avec une petite dose de fanatisme idéologique, mais avant tout des intérêts prosaïques et de gens aussi qui se sentent une nouvelle dignité d'appartenir à ces choses. Et il montre très bien comment tout ça se double d'une inefficacité économique flagrante tout de suite et d'une gabegie hallucinante. Et il montre très bien comment il y a tout un jeu entre l'idée d'apparaître comme un nouveau pouvoir démocratique, d'une direction nationale qui serait l'émanation de la société, qui représenterait le peuple, et où en même temps, toute tentative d'auto-organisation populaire est bridée, et tous les gens qui font ça sont mis en prison ou expulsés du pays. Et comment on va de la corruption, de l'opportunisme, jusqu'aux menaces de mort contre les gens, et au besoin, un début de terreur sélective contre des gens qui complotent. Par exemple, une chose qu'il raconte qui est extrêmement intéressante, c'est l'assassinat de Jorge Salazar en 81. Salazar est le patron du Conseil supérieur de l'entreprise privée, qui est avant tout un consortium de grands finqueros, du coton, du tabac, de l'élevage bovin, et il y a quelques fabricants d'allumettes et de petites usines, de petites mécaniques à Managua. Bon. Qu'est-ce qu'il fait, le Jorge Salazar? Au lieu d'en appeler à des élections, il complote. Et il va... Alors, la sécurité de l'État va lui monter un groupe d'officiers soi-disant en rupture de parti au sein de l'armée qui veulent comploter avec lui pour redonner à la Révolution son cours original. Et là, on lui fixe un rendez-vous dans une station d'essence à la sortie de Managua et on le crible de balles. Et qu'est-ce qui est très intéressant? C'est un, que lui n'a jamais eu l'idée d'en appeler à des élections, que deux, il soit monté dans un complot, et que trois, au lieu de l'arrêter pour atteinte à la sûreté de l'État et tentative de putsch, c'est de ça dont il s'agit, on l'assassine. Et on l'assassine pour terroriser les autres gens qui pourraient bien faire la même chose. Mais l'idée qu'il y a un droit qui va s'appliquer à tout le monde, non. Et ce que montre aussi très bien Moïse et Sassan, c'est comment ces pratiques gouvernementales vont se jouer, non pas dans l'encerclement américain, mais avant l'encerclement américain, c'est-à-dire l'appui à la Contra et des mesures de rétorsion économique contre le gouvernement. Et il confirme ce que Sergio Ramírez avait le premier raconté, c'est-à-dire le côté prophétie autoréalisatrice des sandinistes. Les sandinistes n'ont jamais voulu d'un gouvernement pluraliste et non aligné. Ils ont toujours voulu qu'il y ait, comme ils disent, une hégémonie du front sandiniste sur la révolution. Et ils pensent que jamais les États-Unis n'accepteront cette hégémonie sûre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étendre le feu révolutionnaire à l'Amérique centrale, appuyer le Front Fuerabundo Martí, appuyer un mouvement qu'ils ont créé au Honduras et Chinchoneros, et appuyer les groupes de guérilla au Salvador. Parce qu'ils ont l'idée que, de toute façon, Carter finira par les lâcher, et que, de vu les discours de Reagan, ils vont avoir une offensive militaire contre... D'ailleurs, ils réclament des tanks aux soviétiques en pensant qu'il va y avoir une entrée terrestre des armées des pays du Triangle du Nord en Amérique centrale, c'est-à-dire le Guatemala, le Honduras et le Salvador, Guatemala et Salvador qui ont des armées entraînées et performantes, et qu'il va y avoir une espèce d'entrée comme une espèce de nouvelle guerre de Corée. Bon. Et on sait maintenant qu'il y a eu des discussions entre les hommes de Reagan et les sandinistes en leur disant, écoutez, si vous faites un communisme national à la chinoise ou à la yougoslave, on s'en fout. Vous faites ce que vous voulez chez vous. Effectivement, on a perdu ce territoire. C'est maintenant, vous êtes dans l'orbite soviétique et vous votez toutes les résolutions que présente l'Union soviétique à l'ONU. Mais si vous en restez là, on va vous tolérer. Par contre, on va déclencher des opérations contre vous si vous exportez la révolution. Et ce que montre très bien Moïse Hassan, c'est qu'il y a une espèce de fuite en avant et quelque chose qui tient de la prophétie autoréalisatrice. Prophétie autoréalisatrice qui va déboucher sur une guerre de 50, 82 à 87 et qui va se terminer, de fait, par la défaite des sandinistes. C'est-à-dire qu'ils jamais négocieraient avec l'opposition armée, ils vont négocier avec elle. Et cette opposition armée va appuyer la candidate Violeta Chamorro qui remportera les élections. Voilà. J'ai essayé de vous présenter les choses assez brièvement. J'imagine qu'Emmanuel a des choses à dire, d'autres aussi. Donc, je laisse la parole au débat.
Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très intéressante. Alors, je ouvre la discussion. Des questions de...
Je m'excuse, oui, il y a une petite confusion sur la séance. Je devais discuter, puis plus discuter. Puis alors, du coup, finalement, j'ai quand même lu et j'ai réagi en disant que vous pouvez bien intervenir 5 minutes.
Bien sûr.
Si vous me permettez, peut-être un peu plus, pour être sincère. 10 minutes.
Très hop.
10 minutes.
D'autant que vous voulez.
Et en excusant d'abord, quoi qu'il arrive entre Gilles Bataillon et moi, maintenant, je dois partir à 12h40. Je ne prenais pas ça pour. Alors, ça, premier point. Et puis alors. Bon. Deuxième point, d'abord merci Gilles pour cet exposé, pour ce texte, ta présentation qu'on a lu. Donc, et puis, du coup, tu m'as aussi envoyé le texte de Moïse Hassan, donc, que j'ai lu. Et je t'en remercie. Et alors, d'autant plus que j'ai à vrai dire, et ce n'est pas seulement une précaution oratoire qui me protège, mais je n'ai aucune compétence pour parler du sujet. Je ne suis jamais intéressé avec les outils des sciences sociales, en tout cas à l'Amérique centrale. J'ai juste, pour moi, et c'est bien peu, et c'est même d'ailleurs un fardeau, une sorte de mémoire voilà, il s'est trouvé qu'un peu par hasard, j'étais touriste solidaire au Nicaragua en 89 et 90, et que, voilà, j'étais juste présent à Managua, et c'est cette présence qui, 25 ans plus tard, me justifie ma présence ici aujourd'hui, donc face à Gilles. Alors, ce qui me permet d'ailleurs de mobiliser la province de l'imagination qui est la mémoire, hein, ce que j'ai fait, et en même temps de réagir en honnête homme, entre guillemets, et vraiment en posant des questions sur ce qui m'est apparu un petit peu soit obscur, soit un peu décalé, ou en tout cas, voilà, bon, c'est plusieurs questions comme ça que je te pose. Bon, d'abord, je reviens sur ton texte de présentation, moi, que j'ai trouvé très, très, très convaincant, assez fort, pour tout dire, et assez mesuré, même. Et bon, une petite question, je vais en aligner comme ça 3-4 qu'on laissera, parce que je pense que le débat est sans fond et que là aussi je ne suis pas outillé, mais sur la question du totalitarisme, du sandinisme, tu le dis toi-même dans ta préface que Hassan n'emploie jamais ce mot-là. À mon avis, moi qui ne connais pas grand-chose, il a raison de ne pas l'employer, parce que je personnellement, voilà, en tant que témoin extérieur, je n'ai pas vu un système véritablement totalitaire dans le sandinisme, autoritaire, oui, très certainement. Il y manque à mon avis plusieurs choses. Je ne suis pas sûr que le FSLN était un parti de masse, par exemple. Je ne suis pas sûr que la bureaucratie que tu nommes est une bureaucratie effective, c'est une bureaucratie intentionnelle. Mais quand tu vois justement cette bureaucratie du bas que tu décrivais, que ce soit les associations féministes, les associations de jeunes, les coopératives agricoles, etc., tu voyais en fait une administration sans moyens, encore une fois. Et donc si elle est sans moyens, elle opère, mais elle opère pas comme il voudrait qu'elle opère. C'est autre chose. Et par manque de moyens, cette question-là. Alors, mis à part cette question qui est très compliquée, j'en avais deux autres très suspendues à te poser. La première, tu y as répondu en partie par ton exposé, c'était savoir dans la préface où tu mets les points forts du témoignage en avant, qui est bien sûr un exercice de style imposé quand on propose un texte qu'on a envie de défendre, on va mettre en avant évidemment les points forts du texte et puis parfois dirimer ou effacer ou mettre un petit peu dans l'ombre. Et donc, j'avais envie de te poser si quels étaient selon toi les points faibles témoignage de Hassan, ça c'était, si t'en voyais pas tellement au fond, tu vois, après tout, est-ce que c'est vraiment un texte très fort, très etc., ou s'il y a des points faibles, selon toi, lesquels ils sont, ça, c'est la première question, j'y reviendrai en 2 minutes, et la deuxième, tu écris dans cette préface, donc qu'on a lu, je te cite, Moïse Hassan a enfin une dernière singularité, il ne cède ni à la nostalgie facile des temps héroïques, ni à l'antienne du « nous ne savions pas » et du « nous avons été pris dans une mécanique qui nous dépassait ». Et je trouve à la lecture de Hassan que tu as raison, vraiment. Et ça, c'est sans doute un point fort de son témoignage. Mais du coup, à quoi il cède? Tu vois, s'il ne cède pas à ça, à quoi il cède ou à quoi l'aide ce témoignage? Qu'est-ce que ça lui apporte, quoi? Et qu'est-ce que le regard qu'il livre de son pays et de la population de son pays lui apporte, tu vois. Enfin, voilà. Je reviens à ma première question. Quels seraient les points faibles? Moi, j'en ai quelques. Enfin, pas vraiment des points faibles, c'est des points à discuter, si tu veux. Hein, j'en ai deux ou trois à discuter. Alors, évidemment, je suis historien borné, tu vois. Oui, c'était terrible, hein, donc je m'excuse auprès de tous les autres. Et donc, il y a des critiques. il y a des critiques très faciles, un peu convenues, qui sont faciles à faire. Et donc, que l'historien fait, un peu par réflexe, c'est de dire, évidemment, c'est un témoignage écrit, donc si j'ai bien compris, il y a un moment, il dit c'était il y a 27 ans.
C'est ça, c'est un quart de siècle après.
En 2005, 2006,
c'est un quart de siècle après.
Et donc, évidemment, c'est fait avec ces catégories et ces jugements de valeur qui sont du milieu des années 2000 et pas du tout du début des années 80. Et il y a des dissonances dans son témoignage de ce point de vue-là. Alors, il y en a plusieurs. Ce qui est gênant, parce qu'il prétend quand même mettre en avant une posture morale très forte. Hein. Il y a une éthique morale dans son écriture et dans ses intentions, en tout cas. Tu vois. Et donc, du coup, je pense au déboisement de Carasso, par exemple, près de Managua, pour planter une espèce de café qui n'avait plus besoin de nombre. Alors là, il évoque le cruel et stupide déboisement tu vois, enfin, sur des tons très, très écolos qui sont tout à fait adaptés à notre temps. Mais franchement, en 1984, qui se soucie? On est encore dans le mythe de la Révolution, à part quelques écoles avant-gardistes, mais qui sont raillées, y compris par la droite libérale et par la gauche marxiste, toutes deux productivistes, qui se soucient des arbres en 1984. On est encore dans le mythe de la Révolution verte, de l'autosuffisance, etc. À gauche comme à droite.
Là-dessus, il y en a un, mais je répondrai ensuite.
Voilà, on y reviendra. Par ailleurs, pareil, à mon avis, j'étais un petit peu gêné, mais là aussi, c'est une vraie question que je pose avec une méconnaissance complète. Mais c'est sur la... Quand il critique, par exemple, le service militaire, la conscription mise en place par le Nicaragua en 84, en rabattant ça, d'ailleurs, vers un côté de « on va sacrifier toute la jeunesse nicaragouienne, on l'offre en sacrifice, c'est un peu comme du centre », et en voyant ça vers une espèce de marxisme dévoyé, alors que la conscription nationale, me semble-t-il, mais là aussi, je te mets, c'est quand même un des pans très importants du libéralisme latino-américain qui plonge ses racines dans le 19e siècle bolivarien notamment, qui est le mythe des soldats de l'an 2, d'un peuple qui dépend toutes les guerres d'indépendance, enfin post-guerre d'indépendance, je pense à la guerre peruano-bolivienne que j'avais un peu étudié avec Guerra, où les deux types sont à cause des gabaratismes, mais il faut une armée de conscription, il faut. Et alors avec ce mythe de mobiliser les tribus indiennes du coin en faisant des soldats de l'an 2, etc. Mais c'est quand même un fil conducteur, si tu veux, il me semble, quoi, de la construction nationale, la déconstruction nationale latino-américaine, et voilà, lui, il y a. Bon, il y a des choses comme ça un petit peu. Alors, deuxième critique d'historien, c'est que il commente, à mon avis, il confond parfois les conséquences et les intentions. Ou alors il part du parti pris que les conséquences sont contenues forcément dans les intentions. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Mais c'est, et ça me paraît un petit peu parfois décalé, si tu veux. Par exemple. Ouais, et du coup, en faisant ça, il ignore un petit peu le contexte dans lequel se prend la décision. Ou alors, il commente le contexte dans lequel se prend la décision au prisme de la fin de l'histoire qu'il connaît, lui, quand il écrit, et pas quand il agit. Je pense à la période 90, à l'année 90, évidemment, la défaite. Donc il faut quand même, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Nicaragua, rappeler que la révolution, comme Gilles l'a dit, a eu lieu en 79, une révolution insurrectionnelle, armée, qui est quand même remise en jeu par des élections démocratiques, avec la surveillance de l'OEA, avec Jimmy Carter qui ne présidait pas, avec toutes les garanties et une victoire assez nette, hein, 54%, je crois, de la
de
et de Chamorro, des opposants, qui a été une vraie stupeur d'ailleurs pour les cadres du sandinisme.
Oui. Ça a été tremblement de terre.
Tremblement de terre. Et donc, au passage, bon, j'ai oublié, bref. Et donc, il faut savoir que Humberto Ortega, le frère du président Daniel, était chef des armées et qui va décider de rester, négocier, tu me reprends si je dis des bêtises, de rester chef des armées. Et donc, il dit sur ça, manipulation complète des Ortega qui mettent en avant un risque d'embrasement, hein, et un refus des élections par une partie de la population nicaraguayenne. Et il dit, mais pas du tout. Pas du tout, il n'y aurait pas eu embrasement, il n'y aurait pas eu, et il assène ça avec une grande autorité, c'est page 174, une invention des Ortega. Moi je ne suis pas sûr, personnellement je ne suis pas sûr. Et en tout cas on manque de corpus comme toujours pour l'affirmer, et on peut dire après il n'y aurait pas eu, mais on n'en sait rien, bah, tu vois, on n'en sait rien, c'est des embranchements qu'offre l'histoire, et bon, si j'ai un souvenir à évoquer, je l'évoquerai, celui-là, mais tu vois, je suis pas sûr. On en reparlera si on a le temps, mais je ne suis pas sûr du tout qu'il n'y ait pas eu un risque d'embrasement et qu'il fallait pas, par opportunisme, mais peut-être, en effet, ben, tu vois, des choses comme ça. Bon. Alors, enfin, alors, quatrième critique, je trouve qu'il y a un petit côté Monsieur X, pour ceux qui connaissent France Inter, si tu veux, c'est-à-dire qu'on a une histoire des acteurs, des élites, en réalité une vingtaine de personnes, et parmi cette vingtaine de personnes, 5 ou 6, hein, les frères Ortega, Thomas de Morpé, tout ça, et en face, c'est des acteurs, et sa description est très fine, hein, on va dire, et on le croit d'ailleurs, il peut se tromper, mais peu importe, c'est pas ça la question, on le croit, on le croit sincère en tout cas. Mais en face, il n'y a pas d'acteurs, il y a le peuple. Et tous les acteurs dont tu as parlé là, moi je ne les ai pas vus, si tu veux. Il n'y a pas les responsables des mouvements, des associations féministes qui se sont développées, il n'y a pas les associations de jeunes, il n'y a pas les directeurs des coopératives agricoles, je parle de, des rares qui ont fonctionné, quelques-unes, très peu. Il n'y a même pas les ouvriers agricoles exploités dans les fermes d'État, très mal payés, qui travaillent dans des conditions extrêmement dures. Enfin, ce ne sont plus des acteurs individuels, c'est le peuple. Et ça, j'y arrive. Et là, c'est pour moi ce qui m'a le plus gêné. C'est cette notion de Guaguancy, justement. Alors, c'est un peu plus compliqué, ça. Je sais pas, je termine là-dessus. Mais, c'est-à-dire qu'il met en avant une explication, donc ce que tu nous as très bien redécrit, là, qui est en fait, qui m'a fait penser un petit peu à ce que disent certains auteurs des subaltern studies, tu vois, mais d'un côté négatif. Je ne sais pas si tu connais James C. Scott.
Si.
Voilà, tu vois, son histoire du texte caché qu'il a écrit dans La domination et les arts de la résistance, ou par une forme, ou en gros, James C. Scott, il dit, comment on mesure l'autorité? Au texte caché, c'est-à-dire à la différence de ce qu'on dit du chef, du patron, de l'officier, du père, quand il n'est pas là, à d'autres, publiquement, bien sûr, parole publique, mais quand l'autorité n'est pas là. Et ce qu'on dit à l'autorité, et le différentiel est là-dedans, mais ce n'est pas seulement un différentiel considéré comme une sorte de inutile ou suspendu, c'est un différentiel qui est opérant, qui crée du lien social avec quand la parole est publique, etc. Mais selon ce que j'ai compris de James Scott, parce que ce n'est pas très clair non plus, c'est quelque chose d'assez élogieux, c'est une forme de résistance, quoi. Alors que là, le Guaguancy, c'est quelque chose de très, comment dire, dépréciateur.
Oui.
D'accord, c'est la corruption, c'est la combine, on tire les marrons du feu, quoi. C'est pas tellement un acte de résistance, c'est un acte de profit individuel dans un système fondamentalement injuste. Et alors là, tu vois, on quitte complètement la jeunesse ou la capacité de se mouvoir dans un système autoritaire, on est dans un profit pur. Et alors là, moi je trouve qu'il y a un truc très fort d'essentialisme, c'est-à-dire qu'il essentialise le peuple nicaraguayen, d'une manière pour moi qui est très surprenante, c'est-à-dire... D'où vient cette figure, nous dit-il, d'une histoire très ancienne et qui est le grand problème des élites créoles et libérales, déjà que tu nommais au XIXe siècle, celle de cette double origine indienne soumise, qui s'est soumise aux colons espagnols au XVIe siècle de manière plus ou moins... C'est Nicarao, il en parle, il y a un très long passage sur ces chefs indiens soumis et la brutalité du colon espagnol. Hein, la brutalité du colon espagnol, alors le local c'est Pedro Arias d'Avila, mais peu importe, c'est toujours la même structure. Et en gros, qu'est-ce qu'on est nous? On est, je vais essayer de retrouver la citation, mais le triste fruit de ce métissage. Il parle comme ça, il emploie le... voilà, Nicarao et sa coterie, avec de l'autre côté Pedro Arias d'Avila, seraient responsables de notre misérable culture politique et de notre vision chaotique du monde. Moi, si tu veux, plus personne n'essentialiserait comme ça les Britanniques, les Allemands ou les Français. On peut le faire entre nous en rigolant. Et parfois même, on peut avoir des représentations qui malgré nous, le confortent ces stéréotypes. Mais plus personne ne l'avancerait en sciences sociales, quoi, ou même dans un témoignage politique un peu de haut niveau, quoi. Bon, funeste conjonction de ces deux groupes, je passe, il y a plein de passages sur ça, hein, et qui sont, à mon avis, un peu gênants pour moi, un peu gênants. Et donc, et puis surtout, ça essentialise le peuple, et j'allais dire de nouveau, parce qu'on passe chez Hassan, me semble-t-il, d'un peuple essentialisé, idéalisé, marxisé, je ne sais pas si on dit marxisé, je ne sais pas comment dire, quoi. En tout cas, essentialisé, le peuple juste, le peuple vertueux, le peuple du droit, le peuple sublime de la révolution, etc., à un peuple, alors essentialisé, mais à l'opposé, vraiment à l'opposé, quoi, des sens contraires, déprécié, passif, résigné, contraint, inerte, tu vois, je veux dire, voilà, ça m'a gêné, quoi, ça m'a gêné. Je reviens au passage de Umberto, par exemple, qui veut rester chef des armées, hein, et selon lui, voilà exactement comment il en parle, du coup, il dit « Le succès de cette manœuvre reposait sur leur, les sandinistes, les frères Ortega d'ailleurs, leur capacité d'imposer à une population inerte la conviction résignée que ces bourreaux étaient capables de faire du pays un chaos total. On retrouve ces petites élites de M. X et en face, le peuple absolument inerte et passif. C'est très gênant. Pour moi, c'est très gênant, cette lecture-là. Et alors, je conclue là-dessus, promis juré. C'est-à-dire que la fin du livre, il faut lire ce livre qui est formidable. Hein. Évidemment, j'en mets en avant les choses qui m'ont gêné, mais c'est par ailleurs, c'est très touchant. Moi, ça m'a remué, évidemment, tu imagines bien, quoi. Mais là, l'épilogue du livre, dont tu n'as pas parlé là, donc je vous permets d'en parler, hein, c'est l'épilogue, on tombe au fait sur la contre-figure du Gwagwense, figure honorable. Quelle est cette contre-figure? Il mobilise à ce moment-là, on revient en 1964, il fait un stage universitaire aux États-Unis, l'université, oui. Qui est laquelle, hein, et il parle de ce jeune Scott qui reçoit son ordre de mobilisation, hein, pour partir au Vietnam en 1964. Et alors là, le type raconte qu'il fait ça, il fait sa propagande, il dit mais tu vas pas partir au Vietnam, tu vas pas aller, etc. Reste. Et donc là, cette réponse du John Scott en disant j'y vais parce que mon pays m'appelle, en très touchant quoi. Et là, donc il écrit en 2006, hein, je vois en Scott et dans les autres garçons de son genre des êtres idéalistes, fermement attachés à leurs principes, appartenant, je cite, à la lumineuse contrepartie de la méprisable espèce des Gwagwense. En gros, le type se flagelle avec une force inouïe en prenant la contre-figure du jeune Yankee qui part au Vietnam comme étant l'exact opposé de son peuple. De son peuple déprécié. J'y vois moi cette vision dépréciatrice, outre qu'elle renoue avec la pensée libérale du 19e siècle que tu as évoqué là, et moi je vois comme toi plein de points communs, tu vois. Et par exemple, mieux que le Gwagwense, j'ai beaucoup pensé à ce que nous disait Guerra à l'époque sur les Cabildo Abierto et cette question de ces pratiques politiques où, au fait, en Amérique latine, c'est toujours la part la plus saine de la patrie, la parte massala de la nation qui va parler, c'est-à-dire les élites. Et c'est entre ces élites que les choses se jouent avec ce problème indien, hein, et qui traverse le champ politique latino-américain. Et c'est, il parle encore, entre eux, quoi. Voilà, dit en vrac, Gilles.
Je vais repartir de la dernière chose que tu disais. Son ode à ce jeune Américain qui accepte de partir alors qu'il n'en a pas envie, c'est l'idée, il y a deux registres de l'humanité. Il y a un registre de la sociabilité qui est l'arrangement dans le style du Gwagwense, et il y a un registre de la sociabilité qui est le respect de la norme imposée et extérieure. Et là, en t'entendant, je pense que si j'avais à faire un commentaire plus long du truc, son dernier passage, c'est une réponse implicite à le plus grand poème de Darío, qui est l'homme qui révolutionne la langue espagnole et dont tous les Nicaraguayens connaissent les vers, c'est Oda a Roosevelt. Et il décrit l'Amérique sous les traits de capitalistes grimaçants, uniquement préoccupés de leur intérêt égoïste. Et par contre, la civilisation latine est héroïque et préoccupée de spiritualité. Donc, ils renversent le truc. Et ce qu'ils ont pour un Nicaraguayen, c'est évident, pour nous, on saute au plafond. Cela dit, tu as tout à fait raison dans la façon dont il est comme les essayistes du 19e et du début du 20e en Amérique latine. Et si tu lis le premier Paz, si tu lis Fuentes, si tu lis tous ces grands écrivains, si tu prends Neruda, il y a des choses essentialistes et de la psychologie des peuples. Et disons, les auteurs les plus traduits en espagnol à la charnière du 19e et du 20e, c'est Le Bon, Vacher de la Pouge et toutes ces théories. Et il est pour une part, à certains moments, là-dedans. Et si tu veux, je pense qu'il est effectivement dans la position de « je fais partie de la Señor Parce » et je suis de la Señor Parce que je suis un pédagogue, je suis un professeur, je suis un savant. J'ai un doctorat en physique nucléaire. Donc, il est dans un rapport comme ça. Pour reprendre tes choses un peu à l'envers, mais c'est je pense, la meilleure façon d'y répondre, quand tu expliques comment, dans le Gwagwense, on pourrait voir cette pratique que James Scott appelle le texte caché. Bon, c'est vrai. Un des premiers qui a posé ces questions-là dans la théorie politique, c'est Castoriadis. Dans les rapports de production en Russie, il dit, si le système soviétique de la planification fonctionne, c'est parce qu'on transgresse tous les jours, qu'on viole les normes et qu'on les réorganise autrement. Mais il dit, c'est aussi à long terme le risque d'une société qui devient complètement anomique au sens durkheimien du terme. Et ce que pointe Moïse Essassane, qui n'a, je veux dire, il a probablement lu autant de textes sociologiques que moi, je suis un spécialiste du soufisme iranien, et disons, il, c'est, ça qui, c'est ce problème-là qui pointe. Et disons, et il voit, d'une certaine façon, les méfaits de l'agency généralisée sans la redéfinition d'un cadre institutionnel. Et il dit, s'il n'y a pas des normes que se donne la société et qui sont explicites et qui sont respectées, même si on sait, tous les sociologues de la norme expliquent qu'il y a des transgressions plus ou moins grandes, mais il dit, la part de la transgression dans le régime des normes nicaraguayens est telle qu'on est dans une espèce d'entremangerie, de lutte de tous, de chacun pour soi, qui rend la société, disons, invivable et qui ne permet pas un développement où l'intérêt collectif puisse primer sur les intérêts privés. Et il dit, et d'une certaine façon, c'est à ça que renvoie son livre, c'est qu'il dit qu'il faut rompre avec cette culture du huehuense, et il y a un appel à une rupture avec une tradition nicaraguayenne pour entrer dans un monde démocratico-libéral, dans le monde, si j'ose dire, sa dichotomie, c'est la vieille dichotomie latino-américaine, civilisation-barbarie. La barbarie, c'est le huehuense, et la civilisation, c'est les lumières démocratico-libérales, et aussi la science. Alors, sur les autres choses, pour reprendre là dans l'ordre, sur le témoignage, sur l'histoire du déboisement de Carasso, ça a fait hurler tout le monde.
Ça a fait hurler tout le monde.
Et il y a même un agronome français qui fait un livre qui s'appelle « Fini les lendemains qui chantent », qui paraît en 83, qui est du Monde, qui en parle. Disons, ça, il y a eu un débat au Nicaragua, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Et en fait, ça a été une folie pour vendre du bois tropical. C'est des affairistes qui ont vendu du bois tropical. Sur le service militaire, alors il y a une partie du débat que j'aurais dû présenter. C'est la révolution sandiniste. Il y a l'idée pour toute une série de gens qu'elle va faire un Costa Rica bis. Qu'est-ce qu'a fait le Costa Rica? Il a aboli l'armée en 48. Et donc, dans le projet, il y a d'avoir une armée à minima et de surtout plus être pris dans les jeux qui ont été ceux de Somoza autrefois, puisque, enfin, certains d'entre vous le savent, d'autres pas, d'où est partie l'expédition de la baie des cochons? De Puerto Cabezas. Et il y a eu le fils Somoza qui a dit « Ramenez-moi un poil de la barbe de Castro aux insurgés cubains qui partaient. » Bon, donc il y a l'idée d'en finir avec ce jeu-là. Et alors, s'il critique aussi fort la création du service militaire patriotique obligatoire, c'est parce qu'il dit « On durcit une opposition contre nous. » Des types qui ne seraient pas partis à la Contra, puisqu'ils doivent mourir les armes à la main, soit ils quittent le pays, soit ils vont à la Contra. Et par ailleurs, les gens sont envoyés au front de façon absolument pas préparée. Et donc, c'est une hécatombe. Sur conséquences, intentions, si tu veux, il y a effectivement des moments intentionnalistes dans les propos que tient Moïse Assad. En même temps, ce que je trouve qu'il montre très finement, c'est qu'il montre comment il y a des espèces d'effets de cliquet. C'est-à-dire, il y a tel moment dans la révolution où il y a telles décisions qui sont prises sous le feu aussi des circonstances, et il le montre très bien. Il dit, ce changement du contexte, sa réinterprétation, permet de passer à autre chose. Et disons, c'est là qu'on revient à l'histoire du totalitarisme. C'est, si tu veux, je pense, et un document comme le document des 72 heures montre très bien que les sandinistes veulent imposer une hégémonie qui est construite sur ce qu'ils appellent l'hégémonie castriste dans la révolution cubaine. Et que ces moyens qu'ils n'ont plus, quand toi tu vois Managua en 90, c'est que le pays est ruiné. Le pays est ruiné, or le pays a eu énormément de moyens au début. Puisque, disons, le Venezuela lui a fourni du pétrole gratuitement, le Mexique aussi, et il y a eu les pays du bloc soviétique ont fourni tout ce qui était l'aide en armement, en formation des services de police et des services secrets, mais tout ce qui est l'appui pour la médecine, tout ce qui est l'appui pour l'éducation, tout ça, c'est les pays sociodémocrates qui ont banqué au maximum. Donc, disons, et par ailleurs, dans les pays aidés au moment de Carter, le premier qui reçoit une aide américaine, le premier c'est Israël, le deuxième c'est l'Égypte, et le troisième c'est le Nicaragua. C'est-à-dire qu'il y a une aide, il y a une espèce de manne, et celui qui décrit très bien ça, c'est un type que je cite en note, c'est Jorge Lanispinel, qui montre comment il y a une espèce d'abondance de biens et qui conduit presque d'ailleurs, qui facilite la gabegie. C'est-à-dire qu'il y en a tellement que dire si on pique, c'est pas grave. Ou si on utilise mal, c'est pas grave. Sur l'histoire du totalitarisme, je veux dire, on peut avoir un débat là-dessus. Je pense que, si tu veux, la thèse de Sheila Fitzpatrick, qui est de dire le totalitarisme n'a jamais eu la réalité, la dureté qu'on lui a prêtée en Union soviétique, je veux dire, on a l'impression d'un débat pour monter dans la soviétologie américaine. C'est-à-dire, tous les gens sérieux qui ont travaillé sur le totalitarisme, et disons, il y a eu les images caricaturales de Brzezinski, mais quand on regarde les choses de Hannah Arendt, elles sont beaucoup plus nuancées, et quand on regarde les critiques du bolchevisme, elles sont aussi beaucoup plus nuancées. Donc, et disons, elle durcit des images d'une rhétorique de la guerre froide pour dire que c'était pas comme ça. Mais bien sûr que c'était pas comme ça. Il n'y a que les gens qui ont cru aux choses de Brzezinski, d'une certaine politologie américaine, qui pensaient ça. Autrement, il y a des tas de gens qui ont montré très tôt que c'était contradictoire, que cette visée totalitaire existait, bien évidemment, cette espèce de projet, ce que le fort appelle le fantasme de l'un existait, mais que de là à ce qu'il se réalise, il y avait plus d'un pas.
Mais il faudrait savoir pourquoi Hassan ne l'emploie pas.
Parce que c'est...
Il le fait intentionnellement.
Non, c'est pas dans son vocabulaire.
Tu crois, tout simplement, c'est une question de champ lexical.
C'est une question de champ lexical et c'est...
D'accord.
C'est pas son propos. C'est pas son vocabulaire. Et c'est pas qu'il aurait lu, il serait pas d'accord.
D'accord.
Oui. Ce qu'il dit de la perversité, parce qu'il y a une perversité chez Ortega aussi, ça n'explique pas tout, il y a une dimension hallucinante, en particulier chez Daniel Ortega, il a des mots extrêmement... Et disons, il a le langage machiavélien. Une des choses qui m'avait beaucoup surpris au Nicaragua quand j'y avais été, quand j'avais pas 30 ans, et que je me promenais au milieu des gens qui faisaient la guerre civile, je me souviens du frère de Pastora qui disait « Aquí les 10 commandements, ça sert à qui los 10 commandamientos se sirven para nada, lo que sirve es el príncipe. » Ici, les 10 commandements, ça sert à rien, ce qui sert, c'est le prince. Et, bon, et il disait, oui, ce qu'il faut, c'est des exemples terrifiants, c'est être magnifique à certains moments et terroriser l'ennemi à d'autres. Et donc, on est, disons, ce qui est très intéressant dans ça, je me souviens, quand je faisais ces enquêtes, je lisais parallèlement le soir, avant de m'endormir, dans l'hôtel où j'étais à San José, au Costa Rica, où je voyais les différents groupes d'opposants exilés au Costa Rica, je lisais la guerre du Péloponnèse de Thucydide. On est dans cet horizon-là, ou dans les guerres civiles dans les villes italiennes. C'est vraiment des endroits où c'est des groupes de gens qui s'allient à des hommes, qui prennent les armes et qui veulent se libérer. Et avec une dimension d'allégeance personnelle aux hommes qui est tout à fait étonnante. Et c'est ça que va essayer de cristalliser le front et de transformer en autre chose avec le slogan « Direction nationale ordonne ». Et de casser toutes ces solidarités qui existent. Mais je veux dire, il y a toute une partie des observations que tu fais auxquelles je peux. Et disons, et ce côté Monsieur X, c'est ça. C'est-à-dire, c'est on va avec tel chef de guerre qu'on reconnaît personnellement. Et c'est même des choses.
Mais du coup, tu retrouves tous les liens de parentèle, de famille, où machin était marié avec truc, etc.
Oui.
Je ne savais pas, par exemple, j'ai appris là-dedans que la femme d'Ortega a été secrétaire
De Pedro Henry Chamorro, oui.
Et donc, tu as l'impression qu'on a dans toute
c'est un microcosme.
De petites familles créoles dont, tu vois, qui se connaissent
c'est
et qui sont liées par des liens familiaux.
C'est même des choses plus étonnantes. Quand moi, j'ai fait mes enquêtes sur la guérilla Miskito, quand j'ai vu des gens dans des villages me dire « Toi, je t'ai vu passer avec le commandant machin en telle année dans le camp de réfugiés ou dans telle base. » C'est-à-dire, tu y étais, tu as, Bon, en plus, c'était assez facile, parce que des étrangers qui passaient, il n'y en avait pas beaucoup. C'était, toi, t'es le tché, et il y a une espèce de truc personnel, qui est extrêmement... C'est pas une société de l'anonymat. C'est ce qui rend, d'ailleurs, l'idée de loi anonyme et impersonnelle pour tout le monde aussi compliquée aussi.
Mais c'est ce qui rend le pays très attachant.
Bien sûr.
Tous les visiteurs que Hassan assassine, à juste titre, oui. D'ailleurs, avec beaucoup de talent. Mais encore une fois, parfois, en se trompant dans sa critique, c'est-à-dire qu'il parle, par exemple, d'un monde occidental. Alors, moi, j'en étais, je préfère absolument béat, qui était... Non, il y avait... Non, justement, non. Justement, non. Enfin, en tout cas, là, il y a peut-être une différence, 84, 89.
Oui.
Mais 89... les soutiens étaient très critiques, vraiment.
Tout à fait. Et disons, au début, ça a été l'adoration.
Oui.
Il y a un livre de Cortázar qui, heureusement pour lui, n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle Nicaragua tan violentamente dulce, Nicaragua si violemment douce. Bon, c'est démentiel. Je veux dire, le reportage de Sartre à Cuba, c'est un modèle de réserve. Le ouragan sur le sucre, c'est un modèle de réserve et de distance avec les choses. Et même Vargas Llosa s'est fait rouler dans la farine par Sergio Ramírez de la façon la plus simple. Le débat a publié un texte 84 sur le Nicaragua. Je veux dire, dans la série Je publie en sachant pas de quoi il retourne, Gaucher, Nora et Pobian se sont surpassés. Et je pense qu'en plus, c'est pas qu'ils ont voulu avoir une image de gauche, c'est qu'ils y ont cru.
Moi j'ai une petite question très simple, juste pour vous écouter un petit peu plus. J'ai pas fait de séjour au Nicaragua, je partage le défaut de mes compatriotes brésiliens qui méconnaissent beaucoup les pays voisins hispaniques. Alors c'est plutôt pour vous écouter un peu dans une comparaison tout à fait évidente avec Cuba. Je m'interroge de manière très simple, pourquoi le régime de Castro parvient à se maintenir au pouvoir depuis si longtemps, alors qu'on retrouve sans doute les mêmes traits de culture politique, économique centrale.
Pour deux raisons. D'une part, les Américains, à la fin, avant le mandat, je crois que c'est Eisenhower, ou je dis peut-être une bêtise, je ne sais plus quel est le président qui est en place, c'est Eisenhower juste avant que Kennedy soit élu. Bon. Disons, plus bête que la politique américaine vis-à-vis de l'opposition cubaine au moment de la baie des cochons, c'est difficile. Il y a quelqu'un qui le raconte très bien, qui est Theodore Draper. Dans Castrisme, mythe et réalité, il y a une édition française du livre et il y a une édition en anglais. Bon. Ce qui va changer fondamentalement, c'est deux choses. C'est d'abord une situation géographique. Cuba, c'est l'île. Le Nicaragua, c'est en terre ferme. Il y a eu le précédent cubain. Et le Nicaragua, disons, quand la révolution sandiniste a lieu, il y a eu une révolution qui s'est prétendue pluraliste et non alignée, qui s'est alignée et qui s'est déroulée ensuite sous le règne de Castro, comme un grand égocrate. Et là, donc, les gens attendent autre chose. Et c'est le moment où, quand même, le socialisme réel commence à prendre le plomb dans l'aile, et toute une série de gens qui vont être fascinés par la révolution sandiniste, c'est des gens qui sont déçus de ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est. Mais qui en même temps sont avertis. C'est le moment où Solidarnosc commence à être un interlocuteur dont on parle. Donc il y a tout ça. Et ensuite, ce qui assure la durabilité du régime de Castro, c'est, disons, une répression de l'opposition absolument féroce et le fait qu'après la crise des missiles, les Américains passent l'accord suivant avec les Russes, qui est qu'on n'appuiera pas une opposition au-delà des missions radio à Cuba. Le coup de soutenir des groupes armés, des groupes d'opposants et autres, c'est fini. Alors qu'au Nicaragua, il y a une contre-paysanne qui surgit tout de suite, comme elle a surgi très vite d'ailleurs à Cuba, les maquis de l'Escambray, ce qu'on appelait les bandits de l'Escambray. Et là, la géographie nicaraguayenne est pour eux, au sens où c'est une dorsale montagneuse, ils sont en contact avec le Honduras et ils s'arment. Ils ont combattu contre Somoza, ils reprennent les armes contre les sandinistes et ils reçoivent un appui logistique des Américains. Mais disons, il y a, comme le dit Moïse Hassan dans ses mémoires, la politique agraire avait été telle qu'il y avait plus d'hommes disposés à prendre les armes que d'armes pour eux. Et disons, l'armée de la Contra, ils alignent 20 000 hommes, ce qui est énorme, une guérilla. C'est probablement la plus grande guérilla paysanne de ce moment-là. Je pense qu'il n'y a qu'un groupe qui a fait mieux, c'est le Sentier Lumineux. Mais disons, c'est un... Et donc, là, les Américains vont jouer moins maladroitement et, disons, celui qui raconte très bien ça... Le film est à la bibliothèque du CESPRA. C'est Henry Ruiz, qui était un des membres de la direction nationale, qui était ministre de la coopération extérieure et qui traitait avec les soviétiques, qui dit, lui, tout de suite, il faut négocier. Tout de suite. Il dit, on ne peut pas soutenir un train de guerre tout pareil. Et lui est partisan, comme Moïse et Sassan, de négocier avec la Contra au plus vite et de faire marche arrière sur une partie de la réforme agraire et de donner des terres aux paysans pour éviter la guerre civile qui voit se propager comme un feu dans la canne à sucre quand on la brûle. Donc et effectivement, au Brésil, il y a eu, disons, quand on regarde l'histoire du PT, le PT a été fasciné par l'expérience nicaraguayenne. Et je vois une discussion au 54 boulevard Raspail avec une réunion qui avait été convoquée par la Flaxo et où il y avait Lefort, Furet, Rosanvallon. Moi, je venais défendre mes marrons sur le Nicaragua et je me suis fait engueuler comme du poisson pourri par Touraine qui m'a dit « Mais vous faites pas de la sociologie, vous faites de la politique, ça tient pas debout. » Il s'est d'ailleurs très élégamment excusé ensuite à un congrès en disant « J'ai été au Nicaragua et qu'est-ce que j'ai déconné quand je vous ai engueulé ce jour-là, c'est vous qui avez raison. » Mais il y avait Véfort qui était aussi là dans la salle. Moi, j'en venais pas là, mais j'avais décidé que je ne me ferais pas passer dessus par un bulldozer, même s'il s'appelait Touraine, que j'allais défendre mon point de vue, quitte à être ridicule. Et Véfort était là, et pour lui, la seule chose qui était importante, et Véfort est tout sauf un con, c'est un très grand sociologue. Véfort me disait, mais quand même, au Nicaragua, il y a les élections directes. C'était le moment de la campagne pour les élections directes au Brésil. Et toute la gauche brésilienne était fascinée par ce fait qu'il y avait eu des élections directes au Nicaragua. Et on ne voyait pas le reste. Mais disons, la durabilité, elle s'explique à cause de ça. C'est-à-dire, il y a une sanctuarisation de la révolution cubaine après la crise des missiles, et au Nicaragua, il n'y a pas. Et les choses. Et disons, et en plus, comme il y a les pays limitrophes, les plus respectables et les plus virulents des adversaires de la révolution sandiniste, c'est ceux qui auront été ses plus intelligents soutiens dans la lutte contre Somoza. C'est le Costa Rica. Et on ne peut pas reprocher au Costa Rica d'être un pays, de ne pas être un pays démocratique. Quand on dit les militaires n'ont du rien quand ils accusent les sandinistes d'être des dictateurs, regardez ce qu'ils font chez eux, c'est quand même pas très joli. Donc là, disons, ils sont pas. Général Alvarez, il n'est pas très présentable. Par contre, les présidents successifs du Costa Rica, qu'est-ce qu'on peut dire ? Rien. Et ça va être. Et ce qui va faire la fin de la révolution sandiniste, c'est les accords négociés par deux présidents centra-américains, Cerezo et Arias, en 87, qui arrivent à un cessez-le-feu. Et qui disent, alors ils ont une idée géniale, c'est on va proclamer des cessez-le-feu partout, même là où il n'y a pas de guerre civile. Costa Rica, cessez-le-feu. Honduras, cessez-le-feu. Guatemala, cessez-le-feu. Là, il y a un vrai problème. Salvador aussi. Ils disent, autre trait de génie, tout le monde va arrêter avec la bonne pratique qui existe depuis le 19e siècle, c'est on soutient les groupes armés chez nous qui veulent renverser le pays voisin avec qui on est en bisbille. Et donc, du coup, ils coupent l'herbe sous le pied à la Contra, mais ils coupent aussi l'herbe sous le pied au Front Farabundo Martí. Et ils coincent les sandinistes. Et disons, Arias et Cerezo sont des génies de la politique internationale. Et ils mettent les gens devant fait accompli. Et je me souviens, parce qu'à l'époque, pour les gens de l'ambassade américaine, j'étais un drôle de type, j'étais antisandiniste, mais je n'étais pas pour Reagan, qui m'avait payé en 87, au moment du plan Arias, un mois de séjour en Amérique centrale, cinq semaines en Amérique centrale et à Washington. Donc il y avait la moitié du calendrier, c'était des rendez-vous qui me prenaient eux, donc j'ai vu des gens que je n'aurais jamais vus autrement, parce que pour les sandinistes, j'étais un agent de la CIA, et pour les gens de droite, j'étais un communiste infiltré. Bon, j'avais les deux accusations. Et donc, ce qui était assez drôle dans le truc, c'est que j'ai vu ça, et quand j'ai été invité, ça s'appelait Council for Inter-American Security, c'était les droites des républicains qui n'en manquent pas, Et ça, c'était des gens sérieux, c'était pas Donald Trump. Et c'était, et quand j'ai fait un exposé devant les jeunes républicains, je leur ai dit, la solution pour sortir de la crise en Amérique centrale, c'est le plan Arias. Et ils étaient sur le cul. C'est-à-dire, mais non, je dis, non, il n'y aura jamais de rollback. Tout ça, ça ne tient pas debout. Mais par contre, il va y avoir une sortie négociée, parce qu'il n'y a que des sorties négociées qui marchent dans ces situations-là. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais disons, le jeu des centre-américains a été fondamental, et la volonté des pays, des grands pays riverains, le Mexique, le Venezuela, de reprendre la main, et en s'appuyant sur l'international socialiste et sur l'international démocrate chrétienne. Ça a joué de façon fantastique.
Oui, une question sur les institutions. Vous avez invoqué la décision de la Cour suprême, je trouvais intéressant. Ce type de décision, normalement, ce type d'interprétation productose de la Constitution, normalement, elles en place à cause du fait que les juges eux-mêmes ne sont pas très sûrs que leur position et la position de la Cour suprême est...
Sur le Conseil d'État.
Sur le Conseil d'État, oui. Leur position n'est pas très rassurée, donc soit le régime, la seule personne va de toute façon avoir le pouvoir d'affaiblir le Conseil. Donc, je voudrais comprendre, même l'opinion publique ne va pas être capable de s'insurger contre...
Non, parce que si vous voulez, ce qui se passe au moment de l'élargissement du Conseil d'État, bon, les sandinistes, on est au printemps 80. Les sandinistes, ils ont lancé ce fameux document des 72 heures où ils disent voilà ce qu'on doit faire, et ça c'est en septembre. Le triomphe, c'est le 19 juillet, donc c'est moins d'un, enfin, c'est jour pour jour, 2 mois après le triomphe. Et ils font ce qu'ils mettent, enfin, ils annoncent que Rákosi appelait en Hongrie la tactique du salami. Bon, on phagocyte tel groupe de l'opposition et on avance comme ça pas à pas. Et ils sont devenus maîtres de la rue, c'est-à-dire la direction nationale, le Front sandiniste peuvent convoquer à des manifestations, mais tous ceux qui convoquent à des manifestations qui ne sont pas sandinistes se voient accusés d'être des contre-révolutionnaires, soit qu'ils veuillent revenir à l'ancien régime, soit qu'ils soient des gauchistes qui veulent aller plus vite que la direction nationale. Donc, quand le mouvement démocratique nicaraguayen de Alfonso Robles veut mobiliser pour protester contre cette décision, ils sont interdits de manifester, et leurs militants, la manifestation est interdite, et on intimide Robles. Et donc, y a, on marche sur les deux pieds en permanence.
On n'a qu'un espoir au niveau institutionnel, de changement des règles de jeu informelles.
Disons, d'une certaine façon, le tort, disons, j'ai considéré, quand j'avais votre âge, que le fait de prendre les armes contre un régime injuste, comme me semblait être celui du Front sandiniste, était parfaitement légitime. Là où j'ai expliqué aux gens avec qui je me suis promené dans la guérilla et que j'ai regardé faire, qu'ils étaient complètement à côté de leur pompe, c'est quand en 84, les sandinistes sont obligés d'organiser des élections. Et là, Arturo Cruz, qui est un ancien membre de la junte de gouvernement de reconstruction nationale, siège en même temps que Moïse Sassan après le départ de Robelo, avant de rallier l'opposition armée, mais Arturo commence une campagne dans le nord du pays. Et pour la première fois, ce qu'on appelle les turbas divinas sandinistas, les groupes de choc sandinistes qui viennent casser son meeting, sont défaites par les paysans qui sont venus assister au meeting et qui sont venus avec leurs machettes. Et là, ils chargent les types, et les types, sont les troupes de choc, sont obligés de se disperser. Alors, il est assez probable que on ne sait pas s'ils auraient remporté les élections si elles n'avaient pas été frauduleuses, et il est probable que si jamais Arturo Cruz avait gagné d'une extrême minorité de voix, on aurait bourré les yeux, parce que pour les années, ce n'était pas pensable que Ortega ne soit pas élu. Mais ce qu'ils auraient obtenu, c'est un grand nombre de députés à la Chambre. Et ça, il y a eu, disons, une imposition américaine où on a dit à Cruz, tu retires ta candidature. Parce qu'on veut continuer à vous avoir comme des chiens de guerre en laisse. On donne des crédits à la Contra, vous attaquez, on n'en donne pas, et vous repliez dans les bases de Honduras et un petit peu au Costa Rica. Comme ça, nous, on négocie ce qui se passe au Salvador. Mais il ne voulait surtout pas, le gouvernement Reagan ne voulait surtout pas d'une dynamique politique autonome qui commence à courir au Nicaragua et qui échappent à leur contrôle, parce qu'ils voulaient garder la main là-dessus pour pouvoir négocier des choses au Salvador et au Guatemala. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on est dans un jeu où non seulement il y a des pressions internationales, mais où on est dans un jeu avec plusieurs échiquiers parallèles. Il n'y a pas le Nicaragua emboîté dans l'échiquier mondial, il y a le Nicaragua emboîté dans l'échiquier du jeu politique au Salvador à côté, et avec des interférences tout le temps. Et ça, pour nous, c'est très incompréhensible, parce qu'on a l'habitude de jeux politiques bornés à l'État national. Si on dit à quelqu'un au Brésil ce qui se passe au Paraguay ou en Argentine, ça va peser sur le jeu politique, on se dit, écoutez, vous nous faites rire, quand on a 200 millions d'habitants, qu'est-ce qu'on a à foutre de 5 millions de plus qu'au Paraguay, quoi. Et c'est un raisonnement qui est légitime. En Amérique centrale, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment des morceaux de pulse qui jouent tout le temps les uns avec les autres. Et où il y a une tradition d'ingérence acceptée. Oui ?
Est-ce que la politique américaine aujourd'hui garde une trace de cette histoire, politique américaine étrangère à l'égard de...
Non, mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Reagan aura fait des discours avec son incroyable talent de comédien sur nos frères, les Freedom Fighters, machin, amenant un mosquito de 1m50 à côté de lui à la tribune de la Chambre des représentants, je ne sais pas où, aux États-Unis. Quand il a fait son musée, il n'y a pas un objet qui rappelle la Contra. Rien. Et disons, à partir du moment où les sandinistes ont perdu la main et où Bush père a gouverné, on s'est fichu de l'Amérique centrale. Ça a été la politique du benign neglect. Et leur seul problème, c'est la drogue. Vient-elle pas aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas au Costa Rica? Le seul problème, c'est l'agenda de la drogue et celui des migrants. Le reste, ils n'en ont rien à foutre et ils n'ont rien appris de ça.
Ils ont dépolitisé leur politique étrangère.
Complètement. C'est une politique commerciale. L'important, c'est de créer des zones de libre-échange. Le reste n'a aucune importance. Et c'est étonnant parce que moi, j'ai vu, quand j'avais fait cette tournée aux États-Unis, ce qui était assez amusant, c'était que j'ai accédé au type, mais qui était en dessous du ministre. C'est comme si j'avais des gens du cabinet de Fabius pour discuter de la politique française au Liban ou en Syrie. Bon, là, il y avait un type qui s'appelait Crescencio, qui s'appelle toujours, je crois qu'il est en vie, qui s'appelle Crescencio Arcos, qui était un type d'origine mexicaine, qui m'a dit tout de suite, ah oui, t'as besoin en anglais, pour toi c'est pas commode, si on parle en espagnol, moi c'est ma langue mère, toi manifestement, tu te débrouilles mieux en espagnol qu'en anglais. Bon, imaginez un Algérien débarquant aux affaires étrangères à Paris, imaginez un responsable très proche de Fabius d'origine algérienne, je vois mal cette chose se faire, et disant au type, on va parler en arabe dialectal, on sera plus commode pour parler. Bon, c'était un... Et il y avait des types qui étaient extrêmement forts. C'était des mecs qui étaient des bêtes d'analyse politique, qui pouvaient être d'un cynisme total, mais je veux dire, ils connaissaient le terrain. Et ce qui est complètement fou, c'est que ces types ont dû partir dans les affaires, et moi, je n'ai plus jamais revu leur nom. Crescencio Arcos, il a été récompensé ensuite, et on lui a donné une ambassade, qui était l'ambassade des États-Unis au Honduras, qui était importante pour tout le démantèlement de la Contra, le fait de savoir si des gens avaient le droit à des visas pour immigrer aux États-Unis ou pas. Et il est parti, c'est le seul ambassadeur américain au Honduras, comme ça, il est parti avec les mariachis à l'aéroport. C'est-à-dire, il a été adulé par les Honduriens. Et c'est des types extrêmement capables. Et ces gens-là ont manifestement disparu de l'écran radar.
Et quelle a été la réception du livre d'Assad au Nicaragua ?
Alors, c'est une très bonne question. Il en a vendu 10 000, ce qui, dans un pays de 4,5 millions d'habitants, est quand même un record. Il n'y a pas eu un compte-rendu de son livre. Et quand j'en ai discuté avec quelqu'un avec qui je suis très ami, qui est l'ancien directeur de Barricada, Carlos Fernando Chamorro, le fils du journaliste assassiné dont l'assassinat avait fait le poudre, et le fils de la présidente, Carlos Fernando m'a dit « Ah oui, c'est un livre plein de ragots, moi je ne l'ai pas trop aimé. » Bon, c'est un livre qui est extrêmement dérangeant, parce qu'il casse l'idée de « on ne savait pas, on s'est fait rouler », ce que disait Emmanuel. Il dit non, on on était parti. Par exemple, il raconte très bien son dilemme au moment du vote pour l'élargissement du Conseil d'État, où sa famille se dit boss, botas, tu votes, on va pas attendre, quoi. Il dit là, j'ai fait la connerie du siècle. Je votais contre, il y avait un problème. Et il dit, c'est aussi des petites décisions qui font basculer des situations. Et du coup, et là c'est intéressant, il vient de refaire une édition et il va le republier. Et c'est un livre qui s'est vendu par le bouche à oreille. Mais les gens ne l'aiment pas. Et effectivement, parce que c'est drôle, j'ai discuté avec l'attaché de presse, elle me disait, mais ton Moïse, s'il fait chier, il se prend pour l'archange Gabriel, il n'a rien à se reprocher. Je dis, oui, effectivement, il n'a rien à se reprocher. Si tu peux lui reprocher, il a des propos homophobes qui datent du 19e siècle. Il y a eu une discussion sur la dépénalisation de l'homosexualité au Nicaragua à l'époque de Violeta Chamorro, et il a tenu des propos qui sont de ceux de Marie-Christine Boutin, quoi, en gros. Je veux dire, de ce point de vue-là, il est d'un conservatisme pas éclairé du tout. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un type d'une vraie probité. Et ça dérange beaucoup de gens. Parce qu'il y a des tas de gens qui ont bénéficié de la piñata et ont rendu un petit peu des biens ensuite, mais pas tous au sein du mouvement rénovateur. Il y a une femme que j'aime beaucoup, qui est Dora Maria Tellez, qui a manifestement un dossier pas complètement net de ce point de vue-là. En tout cas, si elle a rendu, sa famille a gardé. Donc c'est très intéressant parce que c'est un type qui bénéficie d'une estime publique réelle, et en même temps, il y a une omerta du parti du monde intellectuel dessus. Aussi pour ce côté 19e qu'il a.
Comment ça se passe, le renouvellement des générations politiques, enfin, j'ai l'impression que la génération de la révolution est toujours là,
oui.
Un peu comme à Cuba, ou même au Brésil. Enfin, alors même qu'au Brésil, on pense que le Parti des travailleurs est plus ou moins articulé, organisé. Il n'y a pas du tout de...
Il n'y a pas de renouvellement.
Oui.
Là, c'est la même chose, sauf que c'est des gens qui sont encore plus jeunes que Lula. Mmh. Lula, il est né en 51 ou en 52.
Oui.
Bon, les autres, c'est à peu près la même génération. Donc, ils sont là, ils veulent pas lâcher les rênes. Donc, c'est. Le seul qui a lâché les rênes, c'est Sergio Ramírez, mais qui est plus âgé, qui a 10 ans de plus. Donc, Sergio, il a 70 ans. Donc, si ça vous intéresse, prenez le film qui est à la bibliothèque du CESPRA. Qui s'appelle Nicaragua, une révolution confisquée, où il y a c'est des entretiens avec ces gens qui ont été sandinistes et qui sont devenus des opposants, avec des images d'archives, et dedans, il y a Moïse Assad qui est interviewé. Et les images d'archives sont très intéressantes, parce que c'est des images d'archives qui étaient faites pour la propagande intérieure. C'était comme il y avait les actualités pâtées dans les cinémas avant en France, là, c'est les actualités INCINE, l'Institut du cinéma nicaraguayen, et c'est le point de vue officiel de la révolution sur les événements en cours, mais pas à destination de l'étranger, on est du corps, à destination des masses qu'il faut galvaniser. Et donc c'est très intéressant. Et les images sont extraordinairement belles parce que c'est filmé dans le style Eisenstein. Il y a des cadreurs, c'est un noir et blanc extraordinaire, c'est révélé, soit il y a un film sur deux qui est révélé à Mexico et l'autre à Cuba. Et c'est des très belles images et disons le propos des gens est très intéressant.
Merci beaucoup.